Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite.
Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers.
Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
On a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, il est l'heure d'un petit Canu Info, nous sommes bien le jeudi 30 octobre et oui, aujourd'hui je ne me suis pas trompée de date puisque la semaine dernière je vous ai annoncé un petit peu n'importe quoi. Alors ce soir une émission un petit peu exceptionnelle, enfin pour vous ça change rien dans votre poste radio, mais pour nous ça change beaucoup puisque c'est une émission enregistrée que nous vous proposons. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que ce soir nous avons un rendez-vous qui est exceptionnel. Nous sommes ce soir au Cafeton, 44 rue Burdeau, sur les pentes de la Croix-Rousse. Pourquoi? Et ben pour une petite soirée de soutien pour Radio Canu. Vous savez que nous sommes en pleine campagne de dons. Et donc, ça sera l'occasion pour nous et pour vous de se rencontrer, de papoter, de boire un coup. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons décidé de décaler un petit peu notre émission. Mais nous sommes bien là, à l'antenne, à l'heure prévue. Et donc ce soir, nous allons faire un petit tour de l'actualité, comme d'habitude. Et pour commencer, peut-être un petit peu plus sérieusement, évidemment, comme beaucoup, nous rendons hommage à Rémi, mort cette semaine. Voilà, les hommages ont été nombreux et c'est bien, c'est important qu'on n'oublie pas ce qui est en train de se passer là-bas. On salue aussi le courage de ceux et celles qui sont restés sur place, puisque les affrontements continuent, que c'est pas drôle de savoir que on risque sa vie en étant militant aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs la cause qu'on défend. Et puis il s'est passé quand même plein de choses cette semaine dans l'actualité, mais je crois d'abord, Laurent, que tu voulais me dire un petit quelque chose sur Monsieur Cazeneuve.
Oui, alors Cazeneuve, c'est donc le ministre de l'Intérieur, grosso modo de la répression intérieure française. Non, je voulais juste redire sa phrase, qu'il a assez malencontreuse d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'il ne s'agissait pas d'une bavure sur la mort de Rémi Fraisse. Donc si c'est pas une bavure, c'est-à-dire grosso modo une bavure, c'est une mort accidentelle, plus ou moins accidentelle, faite par les forces de l'ordre ou les forces de répression. Si c'est pas une bavure, ça veut dire que c'est volontaire. Et comment ça s'appelle quand on tire volontairement sur quelqu'un avec une arme? Et ben c'est un meurtre. Alors moi j'ai pas bien compris pourquoi il disait que c'était un meurtre. Non, je pense qu'il a pas voulu dire du tout ça. Mais bon voilà, c'est juste pour dire que c'est un digne héritier de tout ce qu'on a pu avoir en ministre de la répression. Monsieur Cazeneuve, il fait honneur à son rang, aux papons et à tous ceux qui l'ont précédé. On va ouvrir avec l'actualité internationale et un petit mot sur, et un gros mot sur la Palestine. D'abord sur la récolte des olives, puisque nous sommes, comme d'habitude, à l'époque où les Palestiniens ramassent leurs olives. C'est quelqu'un qui a déclaré, qui s'appelle Faris Al-Jabi, qui est président du Centre National Palestinien pour la Recherche et le Développement Agricole, qui a commencé à faire un pré-bilan de la récolte des olives, qui devrait être catastrophique cette année. Puisque lui et ses collègues ont estimé que la récolte devrait à peine dépasser les 15 000 tonnes d'olives, alors que dans les meilleures années, on va jusqu'à 32 000 tonnes, les principales raisons étant les problèmes liés à l'occupation israélienne, aux destructions de champs d'oliviers, à toutes ces choses-là. Donc voilà, on rappelle que la production d'olives en Cisjordanie fait vivre 80 000 personnes, donc là, il y a 80 000 personnes qui vont avoir un peu plus de mal à vivre. Alors toujours dans ce qui se passe en Cisjordanie, on va retourner à Biline, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc Biline, hein, depuis 2005, des manifestations contre la création de ce fameux mur de séparation entre Israël et la Palestine sur une frontière inventée hein, par les Israéliens, puisque une partie des terres agricoles, notamment des habitants du village de Biline, sont volées, se retrouvent de l'autre côté du mur. Donc chaque vendredi, il y a des manifestations. On en parlait moins ces derniers temps, puisque la répression était un peu moins forte de la part des autorités d'occupation israélienne. Eh ben non. À nouveau de grosses répressions. Alors historiquement, on rappelle, hein, plusieurs militants ont été assassinés par l'armée israélienne à Biline. Il y a eu d'ailleurs une statue hein, sur le lieu des manifs hebdomadaires en hommage à certains militants assassinés. Alors les nouvelles techniques hein, des soldats israéliens, c'est qu'ils se positionnent proche de l'ancienne route, qui s'appelle la route de la liberté maintenant. Ils sont légèrement au-dessus et quand les manifestants passent, eh ben ils canardent à tout va. Et puis alors ça c'est toujours la première phase. La deuxième phase c'est qu'après ils descendent avec des bombes lacrymo et ils vont dans les maisons, ils arrêtent des gens, ils détruisent alors tout ce qu'ils trouvent, donc des champs d'oliviers puisqu'il y a aussi encore des champs d'oliviers là-bas, des choses comme ça. Ils arrêtent un petit peu tout le monde. Pour reparler des militants, il y a quand même Abdallah Abu Rama, donc un des leaders de cette lutte non violente contre ce mur de séparation, qui est reconnu hein, internationalement. L'Union européenne l'a fait défenseur des droits de l'homme. Amnesty International l'a qualifié de prisonnier de conscience. Il est toujours reconnu, enfin il vient d'être à nouveau reconnu coupable par la cour militaire de résistance à l'occupation. En grosso modo, ça s'appelle entrave au travail d'un soldat. Résistance à l'occupation pour l'occupant israélien. Voilà, donc les manifs continuent tous les vendredis, il y en aura sûrement une nouvelle demain à Biline, donc en Cisjordanie. Et puis dans l'actualité chaude de la région, Israël a décidé de fermer, ils l'ont annoncé en début d'après-midi, l'esplanade des mosquées, donc à Jérusalem. Donc l'esplanade des mosquées, hein, c'est cet endroit où il y a effectivement un lieu de culte très important pour les musulmans et donc pour les Palestiniens entre autres, enfin les Palestiniens ou les Arabes israéliens, on les appelle bien comme on veut. Mais c'est aussi un lieu sur lequel a existé un temple juif, et donc on a chaque fois des militants d'extrême droite juifs, des rabbins juifs d'extrême droite qui viennent, ils ont le droit de visite mais pas le droit de prière, et ils viennent faire la provoque. Ce qui s'est passé, c'est que hier un Palestinien a tiré sur un de ces rabbins hein, qui s'appelle Yehuda Glick, qui a été expulsé de nombreuses fois par les policiers israéliens de l'esplanade des mosquées, parce qu'il venait faire la provoque. Là, à nouveau, hier, il est venu faire la provoque. Un Palestinien, donc il y a eu échange de comme d'habitude, de pierres, etc. Mais un Palestinien lui a tiré dessus. Suite à ça, la police... alors, le Palestinien a été repéré, ils l'ont pas arrêté tout de suite. La police est descendue chez le Palestinien, et plutôt que de l'arrêter, elle a décidé de le tuer. Hein, la peine de mort existe en Israël, elle est pratiquée par l'armée et par la police israélienne, sans passer par la justice d'ailleurs. Donc là, ils sont allés assassiner ce Palestinien qui avait été coupable de l'agression du rabbin, mais qui était coupable juste de l'agression du rabbin, pas de quoi que ce soit d'autre, et qui méritait pas la peine de mort sans passer par la case justice. Mais la police avait décidé autrement. D'ailleurs, la police, on rappelle, là, n'a pas été mise à l'écart ni à l'index par les politiques. Donc, ce qui explique que la police, quand elle va assassiner ce militant qui s'appelle Muataz Hijazi, palestinien, elle est le bras armé de l'État, hein, puisque a priori ça s'est bien passé comme ça. Donc suite à cette agression d'hier, à l'assassinat par la police israélienne, les tensions sont montées et donc Israël a décidé de fermer l'esplanade des mosquées, même si Netanyahou a rappelé qu'ils n'avaient pas volonté de changer le statut du lieu. C'est-à-dire de laisser ce lieu comme étant un lieu pour les musulmans et pas pour les religieux juifs, hein, ce qui est le truc positif. Mais de toute façon, tout le monde a peur, notamment du côté de chez les musulmans, qu'un jour ils détruisent l'esplanade des mosquées pour reconstruire un nouveau temple. Donc voilà. Et alors, la dernière chose qui a énervé l'État israélien, c'est la chef de la diplomatie suédoise qui a annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la Suède. Ça avait été annoncé, hein, on en avait parlé il y a quelques mois, par le premier ministre suédois, mais là c'est la décision officielle, hein, il y a le décret qui est paru en Suède. Alors, Mahmoud Abbas était très content, forcément du côté israélien beaucoup moins. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de pays, hein, qui ont reconnu l'État de Palestine, qui n'existe pas mais qui le reconnaissent symboliquement. D'après l'autorité palestinienne, il y en aurait 134, il y en a d'autres qui disent 112, mais c'est quand même beaucoup. Il y en a 7 qui sont membres de l'Union européenne mais qui ont reconnu avant d'être dans l'Union européenne: la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, Malte et Chypre. Et là, la Suède, c'est le premier pays qui est en tant que membre de l'Union européenne à reconnaître la Palestine. On rappelle que la France, elle ne reconnaît qu'Israël, parce qu'elle a décidé que les Palestiniens n'avaient pas le droit de vie, a priori, puisqu'il n'y a pas de réaction des autorités françaises. La réaction la plus drôle, hein, puisque dans ce monde pourri, il faut bien une réaction drôle, c'est Avigdor Lieberman, donc ministre d'extrême droite des affaires étrangères israéliennes, qui a dit, pour s'adresser aux politiques suédois, que la situation et les relations au Moyen-Orient étaient plus compliquées que le montage des meubles Ikea, leur laissant entendre que c'était pas une bonne idée de faire ça. D'abord, on pourra dire à Monsieur Lieberman qu'il a jamais monté de meubles Ikea, parce qu'il verrait que c'est quand même pas mal compliqué aussi, des fois. Et deux, la situation au Moyen-Orient, elle est compliquée parce qu'ils ont envie qu'elle soit compliquée, mais il y aura des solutions assez simples à mettre en œuvre s'il y avait de la volonté politique au niveau international. Voilà pour la situation israélo-palestinienne.
Et maintenant, nous allons parler des barbares. Et qui dit barbare dit peine de mort, et on part en Corée du Sud. Alors, vous vous souvenez, en avril dernier, il y a eu un naufrage à la pointe sud de la péninsule coréenne. Un naufrage qui a malheureusement fait beaucoup de familles, qui a mis beaucoup de familles dans le malheur. Il y avait 476 personnes à bord du ferry Sewol. 325 étaient des lycéens de la même école. 75 ont survécu, donc voilà, une affaire qui a ébranlé la Corée du Sud. Et donc le principal intéressé, le principal visé dans cette affaire, c'est le commandant du ferry, qui dès le départ a été pointé du doigt. Il a été accusé de vouloir sauver sa propre vie. Alors, pour vous rappeler un petit peu les choses, hein, c'est que on est aussi à l'heure de la technologie, on est en Corée du Sud, donc il y a un certain nombre de portables, de smartphones des élèves qui ont été retrouvés, avec des vidéos, des sons, des enregistrements, des choses assez horribles, où on a pu entendre des appels à ne pas quitter le ferry, par exemple, à ne pas bouger, que c'était pas grave. Et les premiers à être montés dans les petits engins de sauvetage, c'est les membres de l'équipage et le commandant. Donc c'est pour ça qu'ils sont au centre de cette affaire. Donc le commandant, il est en jugement depuis juin dernier pour homicide par négligence aggravée. Alors, dans sa démarche, il faut dire qu'il est largement aussi accusé par toute la les politiques. Il faut savoir que les familles se sont beaucoup mobilisées, hein, puisqu'il y a eu des grèves de la faim des parents cet été. il y a des rassemblements et des manifestations qui continuent le vendredi dans la région au plus près du naufrage. Les familles ont très peur qu'il n'y ait pas de vérité. Mais c'est vrai que ça reste ce commandant qui est pointé du doigt. Il l'est par les politiques et par la justice, puisqu'un représentant du parquet estime que ce commandant porte la responsabilité la plus directe et la plus lourde dans ce désastre, car il a quitté le navire sans faire aucun effort pour secourir les passagers. Reste que l'instruction, elle a mis en évidence une combinaison de facteurs qui explique ce naufrage. Il y a la surcharge du navire, l'incompétence de l'équipage, des travaux d'agrandissement illégaux qui ont affaibli la flottabilité du ferry, la recherche de profit par l'entreprise. Donc c'est plein de petites choses, et au final c'est quand même cet homme qui pour l'instant se retrouve tout seul, condamné à mort. Alors on vous rappelle que en Corée du Sud, il y a la possibilité de cette peine de mort. Il y a une soixantaine de condamnés qui se trouvent dans le couloir de la mort. Il n'y a aucun condamné qui n'a été exécuté depuis 1997, mais c'est vrai que avec cette présidente très à droite des politiciens qui eux aussi se radicalisent sur la question, on voit la peine de mort revenir dans les débats assez fréquemment. Et pourtant, on n'est pas sûr que viser cet homme soit la réponse. Déjà, on sent qu'il y a une espèce aussi de colère, de vengeance qui a pris le dessus en Corée du Sud sur la justice. Il y a une volonté des politiques qui sont très proches des entreprises. Certains ont les familles qui détiennent de grosses entreprises en Corée du Sud. Il y a un gros mélange. On n'a pas très envie finalement qu'on aille chercher au-delà de ce commandant du ferry et de sa négligence et de l'incompétence de l'équipage. L'équipage qui est aussi visé par cette instruction. Certains risquent la peine à perpétuité, d'autres 10, 15 à 30 ans de réclusion. C'est une peine de mort de la colère, de la vengeance, et puis une peine de mort politique qui permet de cacher bien des choses encore, et qui ne sera certainement pas suffisante pour toute la vérité.
Alors on va parler un petit peu maintenant du Burkina Faso, puisque pas mal de choses se sont passées aujourd'hui au Burkina Faso. Alors on va revenir d'abord un petit peu sur pourquoi il se passe des choses au Burkina Faso, avec d'abord un petit bout d'histoire, très très court, juste pour rappeler que c'est toujours Blaise Compaoré qui est à la tête du pouvoir et qui s'amuse comme d'habitude à bricoler la constitution. Ça a entraîné pas mal de manifestations ces derniers jours, à savoir que malgré les manifs, ils ont décidé de maintenir le vote de la modif de la constitution, avec le soutien bien évidemment de la France, qui continue d'être amie avec ce président dictateur Blaise Compaoré. Pour rappeler, il est arrivé au pouvoir en 87. Suite à l'assassinat de Thomas Sankara, un assassinat bien louche, dans lequel la France aurait trempé, mais on n'a pas beaucoup de choses sûres là-dessus, mais ce serait quand même en partie avec l'aide de l'État français que Thomas Sankara a été assassiné. Donc, pour revenir un petit peu sur tout ça, la constitution, c'est celle de 1991, qui avait instauré la limite à deux mandats, ce qui est assez classique dans les constitutions, pour empêcher justement la mise en place de régimes pseudo-démocratiques. Donc, ça plaisait pas à Compaoré dès 97, donc il l'a modifié. Ensuite, nouvelle modif en 98 pour son second septennat, en 2000, en 2005 et en 2010 pour son dernier quinquennat. Donc, il a été élu en 2010 et ça s'arrête en 2015. Donc, du coup, il est coincé. Il a fait deux septennats, deux quinquennats avec bidouille de la Constitution. Et là, il arrive au bout, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, il était prévu le vote de la modif de la Constitution du Burkina Faso. Si on regarde sur l'histoire du Burkina et de Blaise Compaoré, pas mal de sang sur les mains de Blaise Compaoré, pas mal d'assassinats politiques, surtout dans les 10 premières années de son pouvoir, avec notamment le célèbre Norbert Zongo, le journaliste, assassiné en 98. On n'a pas d'action en justice suite à ça. Grosso modo, durant ses 27 années de règne, il a soutenu un peu tout ce qu'il fallait pas. Hein, les milices de Charles Taylor au Liberia, en Sierra Leone, il a été proche de l'UNITA, les rebelles angolais. Il a été aussi proche de Guillaume Soro et de ses rebelles ivoiriens. Grosso modo, il s'est impliqué dans ce qui se passe autour du Burkina Faso, au Mali aussi. Et chaque fois, il a pris le camp de... il n'a pas toujours pris le bon camp, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours soutenu par la France, dans cette fameuse France-Afrique, hein, parce qu'il a des amis, notamment du côté de Ségolène Royal ou Elisabeth Guigou. Donc voilà, il a même été reçu le 18 septembre 2012 par François Hollande, qui a confirmé qu'il était toujours un grand ami de la France. Donc voilà, c'était avant aujourd'hui, et aujourd'hui donc le vote à l'Assemblée nationale burkinabé, et des manifestants depuis 3 jours, et aujourd'hui ils sont arrivés devant le Parlement, ils sont rentrés de force. Et donc, du coup, ils ont mis le feu au Parlement, saccage, etc. Grosse réaction de l'armée, qui au départ n'a pas tiré sur les manifestants. Ils sont un peu embêtés. Du coup, on avait pas mal d'infos qui disaient, les forces militaires et les forces de l'ordre se mettent du côté du peuple contre Blaise Compaoré. Alors c'est plus subtil que ça sur l'avancée de sur ce début d'après-midi, puisque quand ils ont voulu attaquer le palais présidentiel, là les forces de défense ont réprimé, donc ils ont tiré des gaz lacrymogènes et puis peut-être à balles réelles. Du coup, a priori, il y aurait peut-être 3 morts, on n'a pas confirmation encore. En tout cas, face à tout ce qui se passe, Blaise Compaoré a réagi, a annulé le processus de modification de la Constitution pour essayer de calmer la situation. On en est là aujourd'hui, ça reste très compliqué. Parce que effectivement, Blaise Compaoré ne semble plus soutenu par la population, qui était bien content de l'avoir, parce que il avait un régime qui était relativement stable, mais au bout d'un moment, l'absence de démocratie fait réagir le peuple, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc nous suivrons bien sûr ce qui va se passer là-bas, parce que c'est quand même relativement tendu, et voir ce que va faire le gouvernement français, s'il va continuer de soutenir ce régime pseudo-démocratique. Alors je reste du coup dans cette région, je vais un peu plus au nord, hein, en Tunisie, juste parce qu'aujourd'hui on a eu les résultats officiels de l'élection législative. Donc c'est le parti Nida Tounes qui a gagné, parti laïque. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le processus électoral tunisien, hein, qui est le seul pays finalement rescapé des printemps arabes. Alors rescapé, mais boiteux quand même, puisque c'est pas facile d'avoir un gouvernement qui tient la route. On se rappelle d'Ennahda qui a pas brillé par ses compétences. Ennahda qui est arrivé deuxième, hein, le parti islamiste. Mais toute la difficulté, c'est que aucun des partis n'a la majorité absolue. Donc le deuxième, Ennahda, va pas forcément s'allier à Nida Tounes. Pour l'instant, il n'y a pas d'alliance comme ça naturelle, puisque les autres sièges se répartissent dans des partis qui sont pas toujours très proches les uns des autres. Faut dire que Nida Tounes, c'est une espèce d'assemblage tout bizarre, hein, avec des gens de gauche, des gens de centre-droit et des anciens du régime de Ben Ali. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, ils ont tous en vue la présidentielle qui aura lieu le 23 novembre. Et c'est à partir de cette présidentielle que des alliances vont pouvoir peut-être se mettre en place. Mais bon, on soulignera quand même que la Tunisie est plutôt sur une voie positive, même si la répression ne s'est pas totalement arrêtée, même si voilà, la situation n'est pas idyllique. Les élections se sont quand même passées à peu près normalement comme peuvent se passer des élections.
Alors maintenant, on va parler des affaires du grand capital, hein. On va parler un peu de capitalisme. Alors c'est une info que vous avez déjà eue, mais on voudrait bien sûr que vous ne l'ayez surtout pas manqué. On va parler de Ryanair. Vous savez, cette compagnie irlandaise à bas coût. Alors, elle prétendait que ses 127 salariés basés à Marseille relevaient du droit social irlandais. Et de fait, Ryanair n'avait donc pas déclaré son activité en France, n'avait pas cotisé aux organismes sociaux français. Et Ryanair était déjà condamné en juin dernier à une amende de 200 000 euros pour travail dissimulé entre 2007 et 2010. Et elle est. Voilà. Donc, il y avait appel, Et mardi, petite réponse. Alors, il faut savoir que Ryanair était poursuivi pour prêt illicite de main-d'œuvre, entre autres, hein, parce qu'il y avait plusieurs affaires avec Ryanair. Donc, ça fait 56 des 94 personnels navigants commerciaux de la base de Marseille qui étaient à l'époque sous contrat avec deux sociétés irlandaises. Enfin, vous voyez, hein, ils ont tiré par tous les bouts ce qu'ils ont pu à Ryanair. Alors, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé mardi la culpabilité de Ryanair. La condamnation à 200 000 euros d'amende est donc bien là. Ce qui est intéressant, c'est que la cour d'appel a également condamné la compagnie à verser 8,1 millions d'euros, oui, plus de 8 millions d'euros, de dommages et intérêts aux organismes sociaux, aux syndicats professionnels et à quatre anciens pilotes qui s'étaient constitués partie civile. Alors par exemple, l'URSSAF, eh ben, elle doit récupérer 4,5 millions d'euros pour les cotisations non versées. Le Pôle emploi doit récupérer près de 500 000 euros, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel aéronautique, près de 3 millions d'euros. Donc voilà des jolies sommes que, évidemment, les organismes espèrent bien récupérer. Ce qui est rigolo aussi, c'est que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les peines complémentaires d'affichage de la décision sur les portes du terminal MP2 de l'aéroport pour une durée d'un mois et la publication de la décision dans 4 journaux. Voilà, c'est histoire peut-être de bien nous faire rentrer dans le crâne les pratiques toutes pourries hein, de ces compagnies low cost, parce que Ryanair n'est évidemment pas la seule à faire joujou. Et puis une autre affaire du grand capital, on part en Espagne. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est beau la mondialisation. Alors, c'est une affaire qui a démarré en décembre 2013 suite à une commission regardatoire internationale émise par la Suisse. Et la Suisse s'interrogeait sur la provenance de fonds déposés sur deux comptes bancaires dont un aurait appartenu à un élu régional du Parti populaire. Là-dessus, les choses prennent un petit peu une accélération en juin puisque le parquet anticorruption espagnol a ouvert une information judiciaire et qui a abouti lundi à l'interpellation de 51 personnes impliquées dans un réseau qui globalement rapprochait les élus et les entreprises, un petit peu de corruption, hein, tout simplement. Alors, c'est quand même une grosse affaire, hein, puisqu'il y a 6 maires qui ont été interpellés. C'est quand même pas mal. L'information judiciaire, elle vise des délits de blanchiment, de fraude fiscale et de trafic d'influence pour des marchés truqués qui sont pour une valeur de 250 millions d'euros. Alors, je vous disais, c'est une affaire de mondialisation, puisque ça se passe en Espagne. C'est la Suisse qui a réclamé cette enquête. Et il faut savoir que, côté français, nous sommes aussi bien représentés, puisque 4 responsables en Espagne de l'entreprise française Cofeli, qui est une filiale du groupe GDF, ont été placés en garde à vue lundi. Alors, il faut savoir que Cofeli était bénéficiaire d'une partie des contrats qui sont donc visés. Et ces contrats auraient été obtenus après versement hein, des commissions sous le manteau à des élus municipaux ou régionaux. Voilà, c'est ça la mondialisation. Hein, un marché en Espagne, une plainte en Suisse et des multinationales dont françaises en accusation. Les affaires du capital, je vous disais. Et puis, là, c'est un peu le foutage de gueule, hein, quand même. On vous rappelle, l'entreprise GAD a été reprise. Alors, c'est 225 postes qui ont été supprimés hein, sur le site de Josselin dans le Morbihan. La SCVA Jean Rosé, filiale d'Intermarché, a repris l'entreprise. Et là, il se passe un truc de dingue. C'est qu'elle fait face à une pénurie de main-d'œuvre sur des postes en plus assez importants pour faire fonctionner la chose. Alors, il s'avère que donc cette filiale d'Intermarché a rappelé 17 salariés qui venaient d'être licenciés. C'est quand même un petit peu du délire. Alors, c'est le grand bazar hein, sur le site de l'abattoir GAD. Il y a quelques jours qu'il y a une reprise d'activité sous le nom Josselin Port Abattage. Il y avait donc cette offre de reprise qui a été validé par le tribunal de commerce de Rennes le 13 octobre dernier, qui prévoyait le maintien de 530 postes sur les 755. Et là, le site fonctionne donc en sous-effectif depuis le départ. Alors, a priori, il y aurait des intérimaires sur site, d'après ce que les syndicats ont commencé à expliquer. Mais ça suffit pas à absorber l'activité de l'abattoir, ce qui fait qu'il y a des employés qui cumulent des journées de 40 heures. Donc, ça gueule un peu quand même hein, sur les chaînes en disant « on a viré des gens et moi, je fais des heures sup, pas plus pouvoir les faire, tellement j'arrive, enfin, c'est trop ». Donc, il y a des besoins urgents. Alors là, quand même, on se dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, les syndicats, ils gueulent, ils disent « ben, c'est simple ». simple, c'est les syndicats et les salariés. On n'a pas été impliqués dans le nouveau projet industriel, donc ils ont fait comme ils voulaient, dans l'urgence. Avec les politiques aussi, on peut l'ajouter, hein, tout heureux de dire « regardez, il y a une reprise, c'est formidable ». Alors c'est vrai que c'est formidable que ça soit repris. Sauf que ça se fait avec du n'importe quoi et qu'on voit aujourd'hui des gens licenciés retourner au boulot pour quelques temps, jusqu'à ce que finalement on les renvoie chez eux parce que on n'en aura encore une fois plus besoin. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule parce que là, franchement, le grand capital, il commence vraiment à nous énerver. Et puis, je te propose, Laurent, de rentrer dans une partie un peu plus politique. On va parler de nos politiques. Tu as commencé tout à l'heure avec Monsieur Cazeneuve. Je vais continuer avec Sylvain, avec Monsieur Châtel. Monsieur Châtel, je vous rappelle, secrétaire général de l'UMP. Vous voyez sa tronche, ça y est, hein ? Vous avez remis. Alors, lui, il défend la poursuite de la construction du barrage. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'il défend les énergies alternatives. Là, vous me dites, je comprends pas.
Oui, parce que c'est un barrage, mais c'est pas un barrage hydroélectrique. Alors, même déjà les barrages hydroélectriques, on va lui rappeler à M. Châtel que ça bougille l'environnement, même si ça fait de l'électricité qui est plutôt verte.
Ouais, parce que je pourrais juste redire à nos auditeurs et auditrices qu'en fait, il était invité cette semaine de la matinale dite télé, donc là, la chaîne d'info en continu de Canal+, qui est présentée par Bruce Toussaint. Et donc, je vais vous dire ce qu'il a déclaré. On ne peut pas d'un côté expliquer qu'il faut multiplier les ressources énergétiques, les ressources dites alternatives au nucléaire, et ne pas prospecter un certain nombre d'autres projets, en particulier celui de barrage. Nous avons besoin aujourd'hui de développer l'énergie hydroélectrique.
Oui, alors, bon, M. Châtel, tous les fleuves ont des barrages. C'est fini, ça, on ne peut plus en construire. Les derniers qui ont été construits dans le monde, c'est une catastrophe. On rappelle le barrage des Trois Gorges. Donc, écologiquement, un barrage, c'est pas bien. Et celui-là, c'est pas du tout ça, même si on peut faire des blagues en disant que... Voilà, mais lui, il n'a pas fait une blague. Il s'est juste trompé, il est juste incompétent. C'est un barrage dont le but est de... C'est une rétention d'eau, plus qu'un barrage, pour permettre à une trentaine d'agriculteurs de continuer de faire du maïs. Vous savez, le maïs, cette plante importée, qui n'a pas de sens à pousser dans la majorité de nos régions parce qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le maïs, on l'arrose énormément pour qu'il pousse. Et dans cette région du Tarn, certains étés, il manque d'eau pour les culteurs de maïs. Donc ils font des bassins de rétention, donc avec un barrage forcément pour arrêter l'eau, pour pouvoir arroser ce maïs pourri, hein, pour qu'il pousse même l'été. Donc voilà, c'était plutôt ça, ce barrage merdique. Mais bon, a priori, il n'était pas bien au courant. Mais en même temps, là-bas, ils auraient fait un barrage hydroélectrique. Il y avait la même problématique que c'était une mauvaise idée de détruire des zones humides naturelles pour des choses qui sont inutiles, qui auraient été aussi inutiles pour un barrage hydroélectrique que pour une rétention d'eau pour de l'agriculture productiviste. Et pour faire plaisir aux assassins de la FNSEA, c'est ça ? Tu vas parler de la FNSEA, ceux qui polluent, qui détruisent les rivières, qui tuent les petits poissons et qui modifient la reproduction humaine ?
Oui, alors je ne sais pas si on va pouvoir le traiter de capitaliste, hein, puisque pour nous c'est quand même un petit peu une insulte, de fasciste, hein, certains j'imagine que pourraient aller jusque-là. Eh ben oui, non mais pourquoi hésiter, puisque Monsieur Belin, patron de la FNSEA, a traité de djihadistes verts les opposants au barrage.
Donc vous êtes maintenant au courant que, à l'écoute de ce Canu Info, les deux animateurs sont donc des djihadistes verts.
Voilà, alors on en a entendu beaucoup, hein, des conneries depuis lundi. Il y a eu évidemment un effet médiatique assez fort, évidemment, il y a un mort, hein, mais évidemment on a vu les médias s'emparer. Moi je noterais quand même qu'au milieu de toutes ces déclarations médiatiques de nos politiques, on a finalement un peu oublié ce qui avait fait la une de toute la presse la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait l'enterrement de Monsieur de Margerie lundi, et finalement c'est passé à la trappe, c'est-à-dire un mort, on a remplacé un autre. Alors nous, le mort du patron, franchement, on en a mais rien à faire. On est bien content qu'il y ait enfin un petit peu de médias sur la question. Moi, j'ai été très étonnée de voir des chaînes s'emparer très très vite de la question, comme BFM TV, j'en suis restée la bouche ouverte, qui a diffusé assez facilement les images fournies par les militants sur place. Donc souvent, c'était assez brut, on voyait des choses assez exceptionnelles qu'on n'aurait jamais vues, je pense, parce qu'ils étaient tous dans l'urgence de transmettre de l'information sur ce qui était en train de se passer sur place. Et donc, on a eu des images assez finalement comme ça, brutes, données, avec des interrogations des fois un peu stupides, mais on a eu aussi beaucoup à côté d'interviews d'alternatifs, de militants sur place, et c'est rare qu'on voit, qu'on les écoute, que ces personnes aient leur temps de parole ailleurs que sur Radio Canu. Donc voilà, il a fallu quand même... la mort, pour en arriver là, c'est quand même douloureux, moi, je trouve. Je pense que c'est difficile pour beaucoup. Voilà, on a eu toute déclaration stupide, parce qu'évidemment, chacun et chacune essaye aussi de se jeter là-dessus pour essayer d'avoir un petit peu sa part médiatique, sa part du lion, puis son petit quart d'heure de célébrité sur la question. Voilà, et Madame Royale, par contre, reste quand même un petit peu timide ces dernières heures.
C'est-à-dire que c'est le ministère de l'écologie qui a validé ce projet de la FNSEA, mais le ministère de l'écologie, on rappelle, est toujours très très proche des productivistes agricoles, moins que le ministère de l'agriculture bien évidemment, mais malheureusement toujours très très proche, et il n'y a pas de volonté de changer de politique agricole en France. Hein. Tout est un petit peu bloqué, parce que la FNSEA, c'est plus qu'un lobby, hein. Ils ont déjà fourni des ministres de l'agriculture, ils sont vraiment au sein de l'État, ils parasitent tout le système, au détriment d'une agriculture responsable. Et en plus, leurs agriculteurs, une grosse partie de leurs agriculteurs n'arrivent même pas à vivre. Il faut être dans les céréaliers de la FNSEA pour toucher des millions de subventions et d'être de s'engraisser sur les petits agriculteurs qui, eux, s'en sortent pas. Les agriculteurs productivistes, parce que les autres, finalement, ils arrivent à beaucoup mieux s'en sortir.
Et puis on va continuer avec nos politiques, on va revenir sur les déclarations de notre ministre de la Culture, Madame Pellerin.
Elle lit pas de livres.
Ouais.
C'est ça. Elle a fait rire.
Ouais, elle était dans une émission supplément de Canal Plus dimanche dernier, et Madame Pellerin était interrogée sur sa rencontre avec Patrick Modiano. Patrick Modiano, je vous rappelle, prix Nobel de littérature. Alors, elle a qualifié cette rencontre de merveilleuse. C'était génial. Le truc, c'est que quand la présentatrice de l'émission lui a demandé quel était le livre de Patrick Modiano et qu'elle avait préféré, tout ça, lui dire peut-être un peu deux mots. Madame Fleur Pellerin n'a rien trouvé à dire. Elle a expliqué, j'avoue sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans, puisqu'elle n'a pas été fichue de nous trouver un titre. Elle aurait pu un petit peu réviser, hein. Ça se faisait dans le temps quand même que les ministres de la Culture révisent avant d'aller à ce genre de rendez-vous. A priori, ça se fait plus. Alors, finalement, là, c'est sur France 5, dans Le Mag, qu'elle est revenue sur la question en expliquant qu'elle lit moins, que cela est naturel quand on travaille 16 heures par jour, qu'il y a 2 ans, elle lisait beaucoup, mais maintenant, bah, elle est surchargée par le travail, et que c'est absolument scandaleux de penser qu'elle puisse être inculte. Alors, nous, on n'est pas très étonnés, finalement. Il ne faut pas oublier qu'on a nommé une ministre du numérique et pas une ministre de la culture, pas une ministre du spectacle, pas une ministre du patrimoine. On a nommé quelqu'un qui va s'occuper du numérique. Donc, moi, Madame Pellerin, ne la connaissant pas personnellement, je n'ai aucune idée de savoir si elle aime la lecture, si elle va au théâtre, si elle va au ciné, si elle aime la photo et la peinture. J'en sais strictement rien, mais reste que ça fait quand même pas très bon de toujours vouloir prétendre que la France et sa culture sont au centre de l'univers, et qu'en même temps on est une ministre qui est pas gênée, nous explique-t-elle, de nous dire que bah non, elle lit plus, quoi, parce qu'elle a pas le temps. Alors on lui expliquera aussi que nous, on a une autre solution, c'est-à-dire c'est rendre le pouvoir au peuple, peut-être être moins dans cette délégation de pouvoir dans lequel nous sommes, qui fait qu'aujourd'hui une personne, en l'occurrence une femme, ben détient tellement de pouvoir qu'elle a trop de travail et qu'elle n'arrive pas à lire. Et ça fait quand même partie de ses missions. Voilà, donc c'était nos politiques cette semaine avec Madame Pellerin.
Ouais, au moins, elle a été honnête. Hein. Ça, je crois que ça faisait longtemps qu'un homme politique ou une femme n'avait pas été aussi loin dans l'honnêteté. Quitte à être ridicule.
Ouais, alors on avait eu quand même M. Sarkozy qui nous avait expliqué aussi son rapport à la culture. On a eu M. Hollande, il n'y a pas très longtemps, hein, qui a expliqué aussi que finalement, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Il n'y a pas de souci à pas aimer des choses. Le truc, c'est que finalement, on préfère quand ils enrobent un peu les choses. Ils ont quand même une fonction aussi qui les amène à être là. Si Mme Pellerin n'a pas le temps de lire, c'est quand même aussi un problème, surtout quand on a un prix Nobel de littérature français.
Oui, puis qu'elle est ministre de la Culture, quoi.
Il y a des résumés qui existent sur Internet, c'est assez bien fait. On peut lui envoyer quelques liens.
Et alors, du coup, c'est quoi ton livre préféré de Modiano ? T'es comme moi, t'en as jamais lu ?
Moi, je saurais pas dire. En fait, c'est pas un auteur que j'aime beaucoup le personnage, mais j'adore pas sa littérature. Donc, j'ai pas de livre préféré de Patrick Modiano. C'est-à-dire que j'ai le plaisir à lire ses interviews, j'ai plaisir à l'écouter, mais c'est pas un de mes auteurs français préférés, je dois le dire.
Voilà, pareil. C'est à moi maintenant. Eh ben, ça va être d'ailleurs la fin de ce Canu Info. Avec un petit mot, bon, une bonne nouvelle, hein, c'est sur les fachos, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles. Là, c'est sur Minute, comme disaient des proches, hein, c'est un journal, on a à la fois la nausée et les mains sales, quand on lit Minute, c'était assez beau. Du coup, ils ont été condamnés, enfin, à 10 000 euros d'amende pour ce qu'ils avaient dit et la photo publiée sur Christiane Taubira. Ils l'avaient comparé à un singe. Parce que Christine Taubira avait plusieurs défauts pour l'extrême droite. Elle n'est pas très blanche et en plus c'est une femme. Donc forcément, c'était pas facile à vivre et c'était pas accepté par Minute. Donc voilà, 3 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende avaient été requis par le parquet. Et du coup, il a récupéré le directeur du torchon qu'on appelle Minute, 10 000 euros d'amende. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que contrairement à ce qu'ils ont essayé de faire passer, que c'était de l'humour, tout ça, c'était pas drôle, et c'était pas de l'humour, hein, on connaît Minute, ils font pas de l'humour, ils font de l'attaque raciste. On va finir par un agenda de ce petit Canu Info qui est peut-être un petit peu plus court. Mais c'est pas grave, oui.
Alors on vous rappelle qu'en vrai, on n'est pas derrière nos micros en chair et en os dans les locaux de Radio Canu, mais en vrai, nous sommes au Cafeton 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse pour une soirée de soutien exceptionnelle. Viens tâter ton animateur et ton animatrice. Voilà, on vous invite à venir boire un coup avec nous, à nous rencontrer, à discuter. C'est aussi pour nous, hein, l'occasion de vous rencontrer, vous qui êtes de l'autre côté, parce qu'on n'a aucune idée non plus de vos têtes et de qui vous êtes. Et voilà, et puis on vous rappelle que donc tout ça, c'est dans le cadre de notre campagne d'appel à dons, d'appel à soutien avec des pépettes et de la caillasse, tout ça pour que Radio Canu puisse se trouver un endroit, un local, un lieu, une cave, un grenier, une grange, enfin n'importe quoi qui fasse que ça soit à nous et que ben on ait un toit sur notre tête à vie. Voilà, parce que Radio Canu, c'est à vie, c'est pour toujours, et que pour l'instant, bah, c'est pour toujours, point d'interrogation, et que nous, on veut que ça soit définitif, vous voyez, parce qu'avoir un chez nous, ça nous ferait déjà des frais en moins, et que ces frais, eh ben, comme la vie est un peu plus chère, eh ben, c'est toujours plus difficile avec notre budget qui, lui, est par contre pas une augmentation, hein, nos recettes, on a beau remplir de mieux en mieux notre grille de programmation que vous pouvez découvrir sur le site internet de Radio Canu, qui est régulièrement mise à jour, on a beau la remplir, hein, les cotisations, ben, à un moment, elles sont limitées à moins de rendre la radio inaccessible pour certains et certaines, c'est-à-dire la rendre avec des cotisations qui seraient tellement chères qu'il n'y aurait plus que des riches qui feraient vivre la radio. Et je comprends bien que vous, là, c'est pas ce que vous voulez. Vous, je sais aussi que vous ne voulez pas demain entendre de la pub, hein. Cling, 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 c'est l'air de la pub, vous voyez. Sur Radio Canu, non, ça le ferait pas du tout. Que voilà, je pense que vous n'avez pas non plus envie qu'on ait des drôles de mécènes, hein, du style Areva, Total, en bas de la porte de Radio Canu.
Ah non, pas Areva et pas Total.
Ouais, voilà, j'ai fait un petit peu fort. Mais voilà, l'idée c'est donc qu'on puisse profiter de cette soirée pour vous raconter un peu plus notre radio et que vous puissiez poser toutes vos questions. À tout à l'heure.
Voilà, alors sinon dans l'agenda un peu plus loin, on va passer à samedi, on sera le 1er novembre. Le 1er novembre, plusieurs choses. D'abord, l'après-midi, il y a une nouvelle manifestation en soutien aux Kurdes de Kobané notamment, et puis aux Kurdes tout court. 14h, place Bellecour, donc samedi 1er novembre. Le soir, c'est l'ouverture du mois de novembre, on s'installe partout, organisé par les copains, notamment les libertaires, avec la soirée d'ouverture qui a lieu à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e, à 19h30, avec deux invités, on va dire, les fables de Pistil, c'est l'ancien Pustule l'art des choix, il vient de faire des fables, et Peau d'être, par Vincent, qui était à l'antenne de Radio Canu il n'y a pas longtemps, et qui fait de la poésie militante, c'est à la fois beau et ça nous fait réagir. Donc ça sera deux spectacles à prix libre avec aussi l'occasion de boire et de manger à La Griffe. Donc on sera le 1er novembre, c'est l'ouverture de ce novembre, on s'installe partout. Je vais continuer dans le novembre, on s'installe partout, en vous faisant le programme de la première semaine. Le mardi 4, ça s'appelle Les résistances à la guerre s'affichent. C'est à l'initiative de l'Observatoire des armements et du CEDRAT. Ça aura lieu à la Maison des Passages, le 44 rue Saint-Georges dans le 5e, de 12h à 19h mardi. Donc une expo d'affiches anti-guerre. Il y aura pas mal de choses autour de la guerre, puisque là tout le monde a commémoré cette boucherie qui était la guerre de 14-18. On va montrer qu'il y avait aussi des résistances à la guerre à cette époque-là. Jeudi, on sera le 6 novembre, il y a un débat proposé par la CNT, les syndicats Santé, Sociale et Éduc, donc à 19h à la CNT, 44 rue Burdeau dans le premier, autour de l'échec scolaire, échec social, point d'interrogation, c'est le titre de ce débat. Donc on parlera éducation. Et puis pour aller un peu plus loin, on va terminer cette première semaine d'activité, on va dire, avec le vendredi 7, deux choses, soit l'actualité de Bakounine, donc Bakounine qui est mort il y a un certain temps, mais qui est toujours présent dans la mémoire et dans les réflexions, avec un débat présenté par la Fédération anarchiste, ce sera au Lavoir public, 4 impasse Flessel, donc c'est vendredi 7 novembre à 19h, et sinon si vous êtes plutôt syndicaliste, et antifascisme, il y a un débat, une rencontre qui s'appelle Syndicalisme contre fascisme, quelle lutte antifasciste, c'est à la librairie La Griffe, donc à 19h, tout ça vendredi 7 novembre. Voilà, on a fait le tour de cette semaine. Rendez-vous demain pour le prochain Canu Info, 19h-20h, et pour l'équipe de jeudi, ben c'est la semaine prochaine, 19h-20h. Bye bye, et ce sera comme d'habitude en direct, parce que cette fois-ci on l'a enregistré à peu près une heure avant de passer à l'antenne.
Oh, promis, on le refera pas, parce que quand même, Radio Canu, c'est du direct, et c'est ça aussi que nous, on aime, c'est être à flux tendu devant notre micro. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, à bientôt.
Bye bye. Un exemple Macomé en a été victime.
Ce serait pire encore que la société a besoin de vous sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte.
compte. Qu'amour de l'ambiance quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés dont je prends mes marques. Un exemple de comportement dans les émeaux du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants afin que l'ordre règne. Nous sommes base au premier chapitre des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand ils se règnent dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime, le gouvernement est à la tête d'un état qui assassine.
Y'a l'état assassine, le coup mal au projet qui dérive. La police est comme un con. Y'a l'état assassine, ma colère en a un vérité. La police est comme un con. Y'a l'état assassine, le droit en a un vérité. Paix à toutes les victimes. Y'a l'état assassine, le coup mal au projet qui dérive.
Je parle des bases policières. Oui, mon frère, quand dans un éclair tout s'arrête. Quand tu prends une bastos en pleine tête par les responsables du maintien de l'ordre public. De l'ordre public ou de l'ordre politique. Du délire d'un flic où l'erreur est humaine. Alors moi aussi, dites-moi, je dégaine. Le crime, est-ce un produit du système? La haine appelle la haine si ton esprit se referme. Le doigt sur la gâchette, mon front transpire. Mon cœur bat plus vite, mes pulsations s'excitent, le sang coule dans mes yeux. Mais je mérite mieux. Pourquoi le shooter lui et pas un autre? Si je shoot ce keuf, je devrais shooter les autres. Mais ce sont les hommes, ça y est, ma tête explose. Toutes tes valeurs s'entrechoquent, car la question que je me pose est: doit-on répondre de la même manière aux violences policières? Mais je ne changerai pas le cours de l'histoire si je shoot un commissaire. Si il a buté mon frère, ça pourrait me satisfaire. Mais le cul entre quatre murs, il ne me restera que la prière. Oh shit! Ma personne s'excite et mes doigts sur le calibre sont moi tremblés s'agitent. Les secondes paraissent des heures. Et l'odeur de l'acier dans ma main a un goût de rancœur. Tant pis je shoot, tant pis je shoot. Je n'en ai plus rien à foutre dans ma tête, il n'a plus de doute.
Hey, squat, réveille-toi, redescends, refais. Dis calme-toi. Oh, putain. Oh,
mais pas un rêve. Putain de cauchemar, j'étais en train de shooter un
cœur.
L'état assassine,
n'a rien de mal à
la police est comme un con. L'état assassine, ma commune, on a été victime.
La police est comme un con.
L'état assassine, n'a rien de mal à la police.
Paix à toutes les victimes.
Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes.
Le gendarme à cheval, sur de drôles d'idées, me lance un pourtant banal, vos papiers s'il vous plaît. Or si l'on considère que la France est aux Français, moi le français m'exaspère, mais la France me plaît. Et si j'aime sa terre, son fromage et ses prés, mille fois je la préfère, remplie de sans-papiers. Situation cocasse, je n'avais que sur moi de vieilles paperasses, journaux de charme, etc. Le regard plein de haine, il me dit suivez-moi. Je lui dis pas la peine, mon chemin va tout droit. Moi j'aime marcher seul, loin de ta colonie. Sur les routes je gueule que vive l'anarchie. Que les vaches sont mortes, qu'on les a remplacées par des poulets qui portent l'odeur de leurs aînés. Il me lance en colère, vous êtes bien comique. Je lui réponds sincère, vous êtes bien un flic. Vous aimez rigoler, me dit-il à nouveau. Il me prend les poignets, les menottes en mon dos. Jamais je ne panique, et je lui dis, vois-tu, ce sera plus pratique pour me gratter le cul. Mais l'humour s'absente de sa tête de condé. Il s'énerve et me plante sa plaque sous le nez. Il me dit, c'est pour toi que la nation travaille. Je lui réponds, non, moi, j'élève des volailles. Je les engraisse un peu, et quand elles sont prêtes, là, j'allume un grand feu. Et c'est parti pour la fête. Le dialogue s'enlise, alors pour compenser, sa matraque fait guise de réponses aiguisées. car on le sait, le verbe, le complément d'objet, bien armé, exacerbe le neurone au poulet. Neurone qui, disons-le, ne manque pas de place dans la tête des bleus, qu'il y a de l'espace. Tandis que les coups tombent sur ma peau sans défense, j'imagine ma tombe juste après la sentence. Mais comble du destin ou hasard tout bête, il s'en mêle les mains et se tape la tête toujours un peu plus fort, car il ne comprend pas que moi je suis alors déjà très loin de là. Le lendemain matin, on a pu lire en une d'un journal du coin cette histoire d'infortune. Le mystère demeure rempli de désespoir. Un flic à la bonne heure s'est tué hier soir. Ne pensez pas, mesdames, ne jugez pas, messieurs, que je ne suis qu'un infâme chansonnier insoucieux. Ce ne sont que des mots qui forment mes couplets, des mots, des idéaux, jamais des pistolets. Ce ne sont que des mots qui forment mes couplets, des chansons, il en faut, et celle-là me plaît. Des chansons, il en faut, et celle-là nous plaît.